France Culture.
Reprenez vos places, les midis continuent à 13h. Je recevrai la chorégraphe Leïla K. Mais tout de suite, c'est l'heure du Point Culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Les écrits de Jerzy Grotowski, artiste et intellectuel majeur de la seconde moitié du XXe siècle, viennent de paraître en deux tomes chez L'Arche. Le metteur en scène polonais qui a fasciné tant d'acteurs et de penseurs européens de son temps a théorisé un théâtre pauvre et a œuvré notamment pour une relation plus écologique à l'environnement. Cette sortie éditoriale permet ainsi à tous de se plonger dans une œuvre riche et souvent très contemporaine. Mario Biagini, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes metteur en scène et chercheur, vous avez co-traduit les écrits de Grotowski qui paraissent chez L'Arche et vous avez également d'ailleurs contribué au volume. Alors dans le tome 1, qui couvre les années 1954-1969, on documente la période théâtre-laboratoire. D'ailleurs ce volume inclut aussi une nouvelle traduction de Vers un théâtre pauvre. Là maintenant, le tome 2 qui vient de sortir, lui, il bascule sur l'après-1970. On y trouve notamment la leçon inaugurale du Collège de France de 1997, et ce pour la première fois. En quoi ce tome 2 des écrits de Grotowski reconfigure la lecture justement qu'on peut avoir de Grotowski? Est-ce que c'est une continuité d'une même recherche ou carrément un changement de paradigme?
Disons que c'est les deux. Ça veut dire que la trajectoire qu'on trouve dans les textes concernant l'activité publique de Grotowski est absolument logique de son point de vue, mais pour les personnes qui suivaient son travail, ou même des fois pour les gens qui étaient à l'intérieur de l'équipe, cela s'est configuré en même temps comme des ruptures, même assez dramatiques, parce qu'à un certain moment, Grotowski décide, après un spectacle qui s'appelait « Apocalypsis cum figuris », décide d'arrêter son activité de faiseur de spectacle avec ses collègues. Et donc se concentre sur des activités qui ont à voir d'une certaine façon avec le théâtre, mais qui sont plutôt censées sur la rencontre humaine avec le parathéâtre et aussi avec la vie de l'être humain dans l'environnement écologique. Il parle déjà à l'époque d'écologie. Et puis sur tout ce que, avec le théâtre des sources, tout ce que l'être humain peut faire avec sa solitude, en allant chercher différentes pratiques, différentes traditions dans d'autres cultures dans le monde, en dehors de l'Europe.
Par exemple, dans quelle culture il va chercher ces solutions-là?
Par exemple, en Inde, ou au Mexique, dans le monde de l'Iran ou du Japon. Et il voyage beaucoup avec des petites équipes. Il faut penser que tout ça, c'était encore subventionné par le ministère de la Culture polonaise, qui était encore, à l'époque, un régime communiste. Alors, on ne sait pas comment il a fait pour faire accepter tout ça, mais il paraît qu'il était assez rusé de ce point de vue. Et il fait aussi arriver en Pologne des gens qui arrivent de plusieurs continents. Et le monde entier, d'une certaine façon, arrive à Wrocław, dans cette ville de l'Est polonais, soit en tant que des experts des différentes traditions, surtout de Haïti, et aussi beaucoup de participants du monde entier.
On a parfois d'ailleurs parlé de Grotowski comme d'un gourou. Est-ce que ça vient de ces années-là où justement le monde entier du théâtre, en tout cas, se rejoint à Wrocław pour venir l'écouter?
Là, je sais pas, parce que je suis pas assez âgé. Ça veut dire que je n'étais pas là. Mais on en a parlé beaucoup. Je pense que d'une part, cette rumeur ou cette image de Grotowski est née déjà à l'époque de Vers un théâtre pauvre, comme d'une sorte de gourou théâtral. À l'époque des spectacles, Grotowski se présentait toujours habillé en noir, avec des lunettes noires, une chemise blanche, et avait une attitude même assez autoritaire, je dirais. Il était très critique envers le monde du théâtre. Mais à un certain moment, au moment du parathéâtre, il change complètement son attitude, même son attrait, la façon dont il s'habille en blanc. Il devient une sorte d'hippie. Et là, je pense qu'il y a aussi une sorte de révolution dans la façon dont il se voit et il voit sa relation au monde. Après son exil de Pologne, à la suite du coup d'État du général Jaruzelski en Pologne, il part. Et donc, il est parti de Pologne, il n'a plus son entourage, il n'a plus la possibilité de vraiment travailler, jusqu'au moment où il trouve refuge à Pontedera, où je l'ai rencontré d'ailleurs, en Italie, une petite ville, où il a carte blanche, il peut faire ce qu'il veut. Et là, il se concentre sur un travail assez clos au commencement, ce que Peter Brook a nommé l'art comme véhicule. Et là, peut-être, cela a donné aussi lieu à cette image de gourou, parce que c'était pour beaucoup de gens une activité assez mystérieuse, où il se concentrait sur la transmission de ce qu'il avait découvert pendant sa vie.
Alors, on a quand même beaucoup de chance que l'Arche ait décidé de publier tous ses écrits. Hein, je viens de le dire, le tome 2 vient de sortir. Qu'est-ce que ces écrits, Mario Biagini, apportent selon vous aux artistes d'aujourd'hui? Est-ce que ce sont des outils? Est-ce que c'est une méthode?
Quand le livre Vers un théâtre pauvre a vu la lumière en français, en anglais, en italien, et puis il a été traduit, je pense, en environ 60 langues, beaucoup de gens ont pris le volume comme une sorte de collection de recettes. Et cela a créé beaucoup de problèmes que Grotowski a essayé de rectifier après en écrivant d'autres textes. Même si Grotowski, déjà à l'époque, disait non, il n'y a pas d'exercice de n'importe quelle sorte qui puisse être des routes préparatoires à la création. Il n'y a rien qui peut nous préparer à la création. C'est seulement la création elle-même qui est une préparation à la création. Et il a toujours dit, non, je ne porte pas de méthode. Si on a compris à un certain moment que je proposais une méthode, c'est de ma faute, je dois rectifier cette information. Alors, ce qu'on voit dans les deux volumes, premièrement, c'est une trajectoire complexe qui couvre toute une vie dans la sphère publique. C'est une trajectoire qui prend en compte la situation de l'être humain dans le monde de l'histoire. Et en étant polonais, pour lui, l'histoire était surtout l'histoire des grands faits tragiques du XXe siècle. La position de l'être humain aussi dans le monde de la nature, dans le monde de tout ce qui rend possible la vie sur notre planète, et dans le monde des autres êtres humains. Et il prend toujours en considération le fait que ce positionnement de l'être humain a à voir pas seulement avec l'expression de soi, mais aussi avec la lutte pour comprendre notre situation par rapport à la souffrance et à la mort aussi, comme une sorte de lutte contre la solitude qui nous menace toujours.
Bien, merci. Je pense qu'on va finir sur ces mots-là. Merci beaucoup, Mario Biagini. Je rappelle que le tome 2 des écrits de Grotowski vient de paraître aux éditions de l'Arche. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, les élus écologistes de la ville de Paris se sont opposés à baptiser une allée Claude Lanzmann.
Oui, Mediapart a révélé que lors d'un conseil de la ville de Paris, des élus écologistes ont empêché la tenue d'une délibération visant à attribuer le nom de Claude Lanzmann à une allée d'un square du 15e arrondissement. Ils considèrent que malgré la qualité de l'œuvre du réalisateur de Shoah et son engagement contre l'antisémitisme, il serait déplacé de le mettre à l'honneur alors qu'il a été accusé à deux reprises d'agression sexuelle. Suite à cet article, une cinquantaine d'artistes et d'intellectuels ont signé une tribune dans l'hebdomadaire Le Point pour protester contre ce refus qu'ils voient comme un affront aux engagements de Claude Lanzmann, considérant, je cite, que au-delà de la question démocratique, c'est la question de la mémoire de la Shoah et à travers elle de la lutte contre l'antisémitisme qui se trouve ici atteinte.
Et pour finir, Marie, l'Afrique du Sud vient d'annuler sa participation à la Biennale de Venise 2026.
Oui, cette décision inédite est liée au travail de l'artiste Gabrielle Goliath, sélectionnée par le comité sud-africain pour représenter son pays à la Biennale. Elle devait y montrer son projet Élégie, une performance durant laquelle des chanteuses rendent hommage aux femmes et aux enfants tués à Gaza par l'armée israélienne depuis 2023. Un choix considéré par le ministre sud-africain des Sports, des Arts et de la Culture comme trop clivant. Il a donc préféré ne pas déposer le dossier de candidature de son pays auprès de la Biennale, actant ainsi la non-participation de l'Afrique du Sud à la prochaine édition prévue en mai 2026.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. À demain, en attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.